Elle accompagne vos nuits. La Libre Antenne, Catherine Blanc sur Europe 1.
Bonsoir, me revoici au micro de la Libre Antenne d'Europe 1. Durant 3 soirées, je serai à l'oreille et la voix bienveillante pour accueillir vos questionnements, vos vacillements ou vos bousculades. Parce qu'en chacun de nous, à la manière d'un bulletin météo, souffle tantôt le chaud, tantôt le froid, se font les tempêtes ou les grands bleus, et selon, nous avons parfois besoin d'abri, de sécurité et d'aide pour nous autoriser ou même apprendre à nous protéger nous-mêmes. Dans ses paroles emplies de sagesse, le Dalai Lama rappelait que l'apaisement réside en chacun de nous. Et oui, et c'est heureux, tout comme le soleil n'est absent d'aucun ciel, quand bien même il est masqué par les nuages. Alors soufflons ensemble sur ce voile qui en ce moment encombre vos vies. Voilà, je suis jusqu'à 1h du matin sur cette libre antenne, qui est donc la vôtre. Et c'est au 39-21 que vous serez accueillis par Amandine et Hassan. Si vous aviez plutôt l'envie d'envoi d'SMS pour accompagner ou réagir aux confidences livrées ce soir, c'est au 7-39-21, en faisant précéder votre message du mot « nuit ». Vous avez également la possibilité de l'envoi d'un mail au www.europe1.fr à la rubrique « La libre antenne ». Et ce soir, à la réalisation de cette émission, j'ai la joie de retrouver Fabrice. Voilà, la libre antenne, c'est maintenant au 39-21.
La libre antenne sur Europe 1, Catherine Blanc.
Bonsoir. Allô, allô ? Emmanuel ? Allô ?
Oui, bonsoir Catherine.
Bonsoir. Je vous écoute Emmanuel, dites-moi, qu'est-ce qui fait votre appel ce soir ?
Oui, je souhaitais appeler parce qu'en fait, j'ai écouté la libre antenne le week-end dernier. Il était question d'adoption. Mmh. Et donc, il y avait des parents adoptifs qui ont témoigné. Il y avait aussi des enfants devenus adultes qui ont apporté leur témoignage. Et moi, j'ai un regard un peu particulier parce que je suis un enfant biologique né après 2 frères adoptés. Mmh. Et donc, ça a été relativement compliqué, on va dire, pour moi de trouver ma place. Mmh. Disons que dans la période de l'enfance, c'est plutôt les parents qui ont eu à gérer les regards extérieurs de la famille, du voisinage, qui de temps en temps mettaient quand même la pression en faisant comprendre qu'ils faisaient des différences entre les aînés et moi. Et puis, le basculement, ça a été au moment de l'adolescence et le frère aîné qui est parti en vrille, on va dire, et qui a basculé du côté de la délinquance. Mmh. Et comme c'était mon modèle, c'était mon grand frère, pour moi, ça a été vraiment difficile à vivre, on va dire.
D'accord. Et alors, justement, est-ce que toute cette difficulté, c'est vrai que c'est difficile, les familles comme ça, qui sont des enfants biologiques, des enfants adoptés. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler ensemble ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler dessus, d'observer des choses ou de comprendre des choses ? Ou encore aujourd'hui, vous peinez à comprendre ce qui faisait votre difficulté à trouver votre place, vous qui ne l'aviez que plus légitimement, justement ?
Disons que je pense que ça a été difficile à gérer parce qu'on habitait un petit village et à l'époque, on parlait, je pense, encore plus difficilement de ces questions-là. Donc, mes parents, si vous voulez, ils ont eu tendance à penser que quand ça a commencé à mal se dérouler avec le frère aîné, c'était de leur faute et il fallait surtout pas que ça s'ébruite. Et à vouloir gérer ça en interne, sauf que le frère aîné qui était assez manipulateur en a profité pour jouer cette carte de la culpabilité et ça a été de pire en pire. Et finalement, que je retiens aussi, c'est que je suis très heureux d'avoir eu un deuxième frère adoptif qui, lui, a pas du tout suivi le même chemin et avec lequel je m'entends très bien encore aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a permis de tenir sûrement et qui me donne finalement un certain équilibre et une vue un peu plus, oui, un peu plus équilibrée de l'adoption, heureusement.
Oui, parce que, alors, déjà, ce qu'il faut dire, Emmanuel, c'est que la vie d'une fratrie est toujours une vie compliquée. Les places, quelles qu'elles soient, entre le premier, le deuxième, le troisième, pour prendre une fratrie classique qui ressemblerait à la vôtre, il peut être facile et ça peut représenter une place privilégiée d'être l'aîné. Ça peut être compliqué de se retrouver en sandwich quand on est le deuxième. Et le troisième peut être ou favorisé parce que le plus petit ou dans la difficulté de faire sa place parce qu'il y a eu deux grands. Donc, en fait, votre difficulté à trouver votre place, elle est de fait parce que vous êtes un troisième par rapport à deux grands qui ont été officiellement désirés à tel point qu'on est allé en plus, dans votre cas, on est allé les adopter avec tout ce que ça représente de difficultés pour les parents tant ils étaient désireux d'enfants. Alors que, si je comprends bien, vous êtes arrivé en troisième position, tout à fait inattendu, qui est évidemment peut-être entendu soit comme un cadeau du ciel et une chance formidable pour une maman qui cherche à avoir des enfants et qui n'y parvenait pas, ou au contraire avoir le sentiment d'être arrivé comme un cheveu sur la soupe, en décalé avec le désir de parentalité de vos parents.
Oui, je pense qu'il y a eu effectivement cette difficulté, étant donné que j'étais vraiment prévu au programme, mais... En tout cas, ce que je retiens aussi, c'est que finalement, mes parents n'ont jamais fait de cachotterie. Et je me souviens que même tout petit, par exemple, on priait pour les deux papas et les deux mamans, donc pour mes frères aînés, leur mère et leur père d'origine. Mm-hmm. Et tout gamin, pour moi, ça me posait question. Je disais, bon, ben, moi, je prie aussi pour mes deux papas et mes deux mamans. Et mes frères me disaient, ben non, mais toi, t'as qu'un père et une mère. mais voilà, finalement, je pense que c'est important de pouvoir, comme vous dites, en parler. Et peut-être que le fait qu'on ait assez difficilement pu en parler aussi entre nous, parce qu'il y avait beaucoup de pudeur des uns et des autres, c'est aussi ça qui crée des tensions et des malentendus.
Oui, de toute façon, vous savez, encore une fois, dans une fratrie, des tensions et des malentendus, il y en a plein, puisque chacun voit de façon singulière l'histoire du point de vue de sa position, du point de vue de sa lorgnette, et des enjeux qui sont à l'œuvre. Donc évidemment, pour vos frères adoptés, il y a aussi fortement, potentiellement, le sentiment d'avoir été abandonné, ou que le sentiment d'avoir été fortement désiré. Et c'est certainement ce qui fait la différence entre votre frère aîné et votre petit frère, parce que le frère aîné, par exemple, eh bien, il a été fortement désiré, mais votre mère avait encore un désir d'enfant, donc il n'a pu suffire au désir de votre maman et de votre papa. Et donc il y a eu un deuxième, ce qui a peut-être participé de sa souffrance. Et puis selon aussi ce qu'il sait de ses parents biologiques aussi, et de ce qu'il s'est raconté, de la non-valeur suffisante en tout cas pour qu'il soit gardé par ses propres parents. Vous avez d'ailleurs connu les histoires des parents biologiques de vos deux frères ?
Alors, il y avait quelques éléments dans leur dossier. Ils n'étaient pas de la même fratrie, mais il y avait quelques éléments dans leur dossier et chacun a eu une attitude différente par rapport à ça. Le frère aîné a souhaité franchir la première étape et savoir quelques bribes d'informations. Est-ce que j'ai des frères et sœurs ? Est-ce que mes parents sont encore en vie ou pas, etc. Mais il n'a pas souhaité aller au-delà et aller jusqu'à les rencontrer. Et par contre, le frère qui est juste au-dessus de moi, lui, le peu qu'on en a parlé, il a toujours dit non, mais c'est le passé, je ne veux pas regarder dans le rétroviseur et ce qui, je ne veux pas apprendre aussi des trucs qui risquent de me faire encore plus mal, donc je veux avancer, quoi. Et en fait, je crois que j'ai vraiment eu besoin de me mettre dans leur peau et c'est pour ça que je viens de publier un roman.
Formidable.
qui raconte, oui, en fait, ça raconte l'histoire d'un adolescent adopté en quête de ses origines. Et lui, il va aller au bout de cette quête d'identité. Il va rencontrer sa mère d'origine. Et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs Ma putain de quête.
Très bien.
Et j'ai vraiment voulu me mettre dans leur peau. Et en fait, un de mes deux frères m'a fait ce qui reste à ce jour le plus beau compliment de lecteur. Il m'a dit « Ah, dans ce bouquin, je te reconnais vraiment toi. » Et j'avais peur de me mentir, de leur mentir en voulant me mettre dans leur peau. Et le fait que ce bouquin, ce soit à la fois moi et eux, ça me fait beaucoup de bien.
C'est une jolie histoire. D'ailleurs, c'est merveilleux de pouvoir écrire, puisque c'est une façon de poser des mots sur tout ce qui a pu aussi habiter votre cerveau, puisqu'ils avaient deux papas, deux mamans. Vous n'en aviez que un papa, qu'une maman. Il y a potentiellement aussi le sentiment que vous étiez coupable d'être légitime quand eux ne l'étaient pas, donc peut-être le besoin de souffrir avec eux et réparer avec eux ou réparer pour eux. Et d'une certaine manière, le sujet de votre roman, où vous allez jusqu'au bout, où vous allez rencontrer, où le personnage va aller rencontrer sa mère biologique, c'est comme si vous faisiez le chemin que vos frères ont eu peur de faire, ont craint de faire, comme si vous aviez besoin d'éprouver avec eux leur histoire pour vous sentir pleinement leur frère. Parce que vous voyez, ce qui est très chouette dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que on n'attire pas suffisamment l'attention dans les fratries comme ça d'enfants biologiques et d'enfants adoptés. On n'attire pas l'attention sur le fait que il y a un sentiment, un besoin de vérifier, de se rassurer qu'on est bien des frères malgré tout. Et c'est un peu comme si vous aviez besoin de rééprouver, de vivre leur histoire pour solidifier cette fratrie et aller en terre inconnue comme eux, en quelque sorte, ou comme la terre inconnue d'où ils viennent, et visiter leur terre inconnue pour faire lien avec eux. Et peut-être aussi parce que, justement, un de vos frères a vécu douloureusement, comme c'est souvent le cas à l'adolescence en général. Et puis, quand on a une histoire particulièrement bousculée, eh bien, devenir homme, devenir adulte, devenir tendre vers ce chemin, réveille aussi, puisque c'est une nouvelle mise au monde, de devenir un adulte, donc au moment de l'adolescence, eh bien, c'est rejouer parfois ou revisiter parfois son démarrage historique et avec les douleurs et les interdits, puisqu'il n'a pas été gardé et reconnu par ses parents biologiques. C'est comme s'il n'arrivait pas lui-même à se reconnaître. Et ce qui l'a fait sombrer, certainement, en partie, en tout cas, dans ces addictions et ces déchirements. C'est-à-dire que souvent, les enfants adoptés ont du mal à accepter qu'ils puissent être adoptés, qu'ils puissent être désirés fortement, parce qu'ils sont restés fixés sur l'idée qu'ils ne pouvaient pas, qu'on ne les a pas accueillis, les parents biologiques, et que même si les parents sont allés les adopter et les aimer fortement, ils continuent eux-mêmes à ne pas s'accueillir. Et c'est comme si vous étiez, vous, dans un devoir de réparation pour être bien de cette fratrie, pour trouver votre place, comme si être un enfant biologique qui émerge de l'amour d'un homme et d'une femme et de la capacité tout d'un coup acquise, parce que souvent, il y a bien sûr des problèmes physiologiques, mais heureusement que les problèmes physiologiques ne sont pas toujours immuables. Et puis aussi, il y a des problèmes psychologiques, la peur d'être parent, quand bien même le désir est très grand. Et quand on a éprouvé la paternité et la maternité, bien parfois tout d'un coup se libèrent les possibilités. Et vous êtes le fruit de ce temps-là.
Oui, j'écoute ce que vous dites. Effectivement, moi, en fait, j'ai vraiment choisi la forme du roman parce que j'avais besoin de vivre ce que vous dites, mais aussi, de transposer dans l'imaginaire, parce que je voulais pas faire un témoignage en indexant qui que ce soit. Donc, le personnage central du roman, c'est vraiment un mélange de caractères et d'itinéraires de mes deux frères adoptifs et de moi. Et donc, c'est vrai qu'il a des passages, surtout au début, très sombres, où il est c'est vraiment pas loin de la délinquance. Et puis, c'est un voyage initiatique en Afrique qui va le faire évoluer, grandir, changer son rapport à la famille. Et puis, bien sûr, la découverte de l'amour et la paternité qui vont complètement révolutionner, lui donner envie de retourner vers ses origines et ensuite vers ses parents adoptifs.
Alors, si vous permettez, Emmanuel, on va faire une toute petite pause parce que je voudrais réagir à ce que vous venez de dire. Je vous reprends donc tout de suite. Hein ?
D'accord.
Merci.
La Libre Antenne sur Europe 1, Catherine Blanc.
Nous sommes toujours sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Emmanuel ?
Oui,
Emmanuel.
Je suis là.
Voilà, donc je voulais réagir sur ce que vous disiez par rapport à votre personnage dans votre livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, l'histoire est plus qu'une histoire d'un enfant adopté, mais c'est d'un enfant en souffrance, et donc c'est de s'adresser évidemment à votre frère aîné. Donc tout à l'heure, vous me disiez le lien que vous avez pu garder avec votre second frère. Avec le premier, les choses se sont brisées, mais on entend donc toute la souffrance de l'enfant que vous êtes, du frère que vous êtes, vis-à-vis de ce grand frère perdu, en quelque sorte, enfin qui se perd, en quelque sorte, et que vous essayez de réparer, et que vous essayez de tirer, de faire tout. De tendre vers sa position d'adulte, sa position, sa reconnaissance historique et sa possibilité de devenir à son tour père tout à fait sereinement. Et c'est ça qui est très joli, c'est que souvent, effectivement, les enfants adoptés peinent ou ont peur de devenir parents eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas. Ils ont peur d'être comme contaminés par la difficulté qu'ont eu leurs propres parents biologiques à jouer leur rôle parental en quelque sorte. Et c'est très joli ce voyage initiatique en terre africaine qui va faire que justement ce personnage va petit à petit reconstituer, réparer cette histoire d'enfant pour devenir à son tour un homme et un père. Cette histoire, ce que vous racontez, qui là ne concerne évidemment qu'un enfant adopté et qui pour vous est certainement votre grand frère, c'est aussi l'histoire de tout un chacun. C'est l'histoire aussi de tous les auditeurs qui nous écoutent. C'est-à-dire que nous avons tous dans notre vie d'enfant des choses qui ont été des blessures plus ou moins fortes, plus ou moins cuisantes. Et ces blessures, évidemment, elles peuvent entraîner une lecture définitive de nous-mêmes, alors qu'elles ne sont qu'un temps de l'histoire. On peut se blesser même physiquement, on peut en avoir des croûtes, des cicatrices. On n'est pas la croûte et la cicatrice, on n'est pas la chute. On est tellement autre chose et on a la capacité d'en faire autre chose, d'apprendre de l'histoire plutôt que de la répéter inlassablement. Je crois que ce que dit votre livre, et en ce sens il est universel et ne concerne pas seulement un public qui serait comme vous dans une histoire d'enfants biologiques et d'enfants adoptés et d'enfants abandonnés par des parents et qui essaient de retrouver leur route. C'est une histoire humaine et je vous en remercie.
Merci, et c'est vrai que moi ce qui me touche c'est que des témoignages de lecteurs, certes, beaucoup de gens adoptés qui du coup me racontent leur histoire, mais aussi des témoignages de gens qui ne connaissent pas du tout ce monde-là de l'adoption, mais qui se reconnaissent dans les conflits de famille, dans les difficultés à avoir un enfant, dans pas mal de choses, dans la quête d'amour ou du bonheur, tout simplement. Et effectivement, ça fait plaisir de voir que c'est un bouquin qui, finalement, réussi un peu à apaiser pas mal de monde, donc ça fait du bien.
En tout cas, c'est un beau bébé que vous avez fait, voilà.
Merci.
À ce titre, vous êtes un beau papa. Je vous souhaite, Emmanuel, une très jolie soirée et bon vent à ce livre et à votre créativité.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Envoyez vos messages à la Libre Antenne d'Europe 1 en tapant « nuit » au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir. Vous m'entendez ?
Je vous entends très bien Caroline.
Écoutez, d'abord, je veux vous remercier pour votre émission que je connais depuis à peu près 2 ans. Enfin, pour toutes les compétences et tous les conseils de lecture, enfin, c'est vraiment très intéressant et terriblement humain. Ça touche vraiment beaucoup au cœur, votre émission.
Eh bien, alors, merci de ce témoignage. Merci.
Alors, donc, en fait, moi, je vous appelais parce que, bon, je vais bientôt avoir 70 ans. Et, bon, j'ai 2 enfants et j'ai 2 petits-enfants. Et mes 2 enfants, en fait, que j'ai eus avec bonheur, avec amour, enfin, voilà. En fait, ils m'ont fait traverser une vie à la fin. Disons, le compte rendu est un petit peu triste parce qu'on a sauté beaucoup d'anniversaires, beaucoup de fêtes, beaucoup de moments de joie par des contrariétés et des choses qui, au final, lorsque je réfléchis à tout ça, je me dis, mais en fait, la vie nous avait tout proposé. Et puis, il y a eu beaucoup de caprices, d'exigences, de malentendus. Il y a eu un divorce quand même, hein. Peut-être que ça a quand même joué quelque part.
Parce que le divorce, Caroline, était à quel moment? D'abord, vous parlez quand vous dites les rendez-vous loupés avec, ou manqués avec vos enfants, c'est dans leur vie d'adulte, c'est ça? C'est pas dans leur vie d'enfant?
Ah non. Justement, peut-être, il y a eu un contraste dont j'aurais dû vous faire part dès le début, c'est que, en fait, toute leur enfance jusqu'à l'adolescence, moi, j'étais la reine de la planète. Mmh. Moi, j'étais une maman comblée. Je ne peux pas vous dire mieux. Enfin, c'était les 2 amours de ma vie. Enfin, ce sont toujours les 2 amours de ma vie. Mais là, vraiment, c'était une période absolument idyllique. Et l'adolescence est arrivée. Et comme je disais à Amandine tout à l'heure, en fait, l'adolescence, on se dit toujours... Enfin, j'ai lu aussi pas mal de choses et je me suis dit, c'est vrai que c'est l'adolescence, on essaie de faire la part des choses, enfin, il faut que ça se passe. Et puis là où j'ai commencé à réaliser que c'était un petit peu long, c'est que mon fils qui avait quand même à peu près 24 ans et ma fille 21 ans lorsque j'ai divorcé, et donc mon fils était déjà en couple et moi, j'étais seule donc avec ma fille. Et là, je me suis dit, mais quand même, ils abordent les 20 ans et ils ont toujours cette attitude exigeante, capricieuse. Ma fille est très condescendante avec moi. Mon fils, alors lui, il a une autre façon d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'il va ou s'énerver ou me dire quelque chose qui n'est pas très agréable à entendre. Et puis après, il va s'excuser. Donc, bon... Donc, si vous voulez, j'ai commencé à me dire, cette période-là, quand même, j'ai beaucoup de peine et j'essayais de discuter avec eux, de leur dire, mais quand même, tu comprends pourquoi tu me parles comme ça, ça me fait de la peine. Il n'y avait aucune réaction. Mm-hmm. Et au fil du temps, quand même, j'ai réalisé quelque chose que je ne voulais pas voir, en fait, c'est qu'ils ont... quand même le comportement de leur père. C'est vraiment le comportement de leur père, c'est-à-dire je veux que tu obéisses, si tu n'obéis pas, je ne vais pas forcément te le dire tout de suite que je ne suis pas content, mais je vais te le faire payer quelque part. Voilà, donc c'est un règlement de compte tout le temps. Mmh. Et moi, je suis là, j'ai flotté entre les trois, comme ça. Quand j'ai divorcé, bon, je me suis sentie apaisée quand même, parce que voilà, j'étais mieux avec ma fille, tranquille. Mon fils venait nous voir, voilà. Et je pensais que ça allait quand même jouer dans nos relations.
Alors, je comprends très bien. Alors, justement, on va faire une toute petite pause, Caroline, et nous allons reprendre point par point tout ça pour essayer de comprendre, en effet, ce qui a pu se jouer et comment les choses ont vrillé à l'occasion d'une adolescence, ce qui aurait pu être tout à fait que ponctuel, mais qui n'a pas été. On reprend ça ensemble dans quelques instants.
Entendu.
À tout de suite.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Il est minuit, vous écoutez Europe 1. Les informations sont présentées par Isabelle Millier.
Bonsoir Catherine, bonsoir Isabelle. À tous. Et vous l'avez vécu, j'espère, en direct sur Europe 1, cette très belle victoire des Bleus qui débute idéalement leur mondial. Les Françaises ont largement dominé la Corée du Sud 4-0, but signé Eugénie Le Sommer, Wendy Renard a marqué deux fois et c'est la capitaine Amandine Henry qui a marqué le quatrième but. Écoutez la joie d'Eugénie Le Sommer à l'issue de cette rencontre.
Je suis fière forcément, c'est vrai que c'était spécial pour moi de marquer ce premier but. Voilà, c'était un événement important pour moi et en plus je revenais de blessure, donc beaucoup de paramètres qui faisaient que j'avais envie aussi de me sentir bien sur ce match et voilà, c'était important de bien débuter, c'est ce qu'on a réussi à faire, donc c'est vraiment bien pour nous, pour la confiance et pour l'équipe.
Nous, on savait que c'était un match un peu particulier avec la pression, l'engouement médiatique, l'engouement populaire, finalement contrat plus que rempli, victoire 4-0, net sans bavure.
Oui, c'est vrai qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre avant le match, même si on savait que le public allait être derrière nous, mais on avait aussi cette petite crainte que ça nous inhibe et que certaines filles peut-être gèrent mal cette pression. Et au contraire, on a super bien débuté le match, on a senti le public tout de suite derrière nous et c'était une atmosphère incroyable. Le public a été formidable ce soir et voilà, c'était une soirée parfaite. Je suis contente d'avoir vécu ça et de gagner ce premier match au Parc des Princes devant autant de monde, c'est juste extraordinaire.
L'attaquante Eugénie Le Sommer qui a donc marqué le tout premier but de ce mondial. Elle était au micro Europe 1 de Julien Froment. La coach Corinne Diacre parle d'un match de bon augure pour la suite. Et le prochain rendez-vous pour les Bleus, justement, ce sera mercredi face aux Norvégiennes. Et on vivra ça encore une fois en direct et en intégralité sur Europe 1. L'autre grand titre, c'est bien sûr ce drame au Sable d'Olonne en Vendée, conséquence de la tempête Miguel. Les sauveteurs en mer sont en deuil. Trois d'entre eux ont péri ce matin. La vedette de la SNSM a chaviré alors qu'ils allaient porter secours à un bateau de pêche en difficulté qui avait déclenché sa balise de détresse. Ils étaient 7 à bord, 4 ont réussi à regagner la côte à la nage. Le bateau de pêche et son propriétaire sont eux toujours introuvables. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, s'est rendu sur place. Il a dit partager la très grande tristesse des familles et celle de la communauté maritime. Le maire des Sables d'Olonne juge incompréhensible qu'un pêcheur ait pu ainsi prendre la mer alors que les conditions météo étaient exécrables. Le département de la Vendée était placé en vigilance orange. Pour Xavier Delagorce, le président de la SNSM, la question n'est pas là.
Le patron d'un bateau de pêche, il prend ses responsabilités. Et nous, lorsque le centre de coordination des secours, le CROSS, nous appelle, parce qu'il y a des vies en danger, on est prêt, on est là pour ça, donc on est disponible. Et d'une manière générale, moi je n'ai jamais vu qu'une station ait refusé d'appareiller pour des raisons quelconques, de temps ou de météo, rien de ça. Ce sont des marins très aguerris, le risque zéro n'existe pas. On dit souvent que ce sont des bénévoles qui prennent le risque d'exposer leur propre vie pour aller sauver celle des autres. Mais ça, c'est dans l'ADN des sauveteurs en mer. Donc, il ne faut pas leur demander de rester à la maison lorsqu'il y a des gens qui sont en danger. Ça ne serait pas leur ADN.
Le président de la SNSM, joint pour Europe 1 par Victor Dolande. De longs silences pesants et même des larmes. Pour la première fois, en 5 semaines d'audience, les ex-dirigeants de France Télécom, jugés pour harcèlement moral, ont exprimé aujourd'hui de l'émotion alors que le tribunal examinait les conséquences de l'été 2009, le pic de la crise sociale dans l'entreprise. Vous pleurez ou vous toussez, monsieur Lombard, interroge la présidente, voyant l'ancien PDG apparemment la gorge serrée. « Je pleure », a-t-il répondu. « On pense que je n'ai pas de cœur, mais ça n'est pas vrai. » Bercy ouvre une enquête interne afin de vérifier que le site internet des impôts n'a pas été victime d'une attaque informatique lundi soir. Vous savez que le site a bugué, contraignant le gouvernement à accorder un délai supplémentaire de 48 heures aux contribuables pour déclarer leurs revenus en ligne. Et puis à Roland-Garros, Rafael Nadal devra attendre demain pour connaître son adversaire, l'Espagnol qui a battu sans trop de problèmes Roger Federer cet après-midi en 3-7, 6-3, 6-4, 6-2. Nadal retrouvera Djokovic ou Dominique Thiem, dont la rencontre a été interrompue alors que les deux joueurs étaient à égalité 1-7 partout, 3 jeux à 1 pour Dominique Thiem dans le troisième set. Et puis chez les dames, la finale demain opposera deux novices à ce niveau en grand chelem, l'Australienne Barty à la Tchèque Vondrousova. Et puis de côté du double, qualification de la Française Kristina Mladenovic pour la finale de dimanche aux côtés de la Hongroise Timea Babos. Et puis vous ne saviez peut-être pas où passer vos prochaines vacances, et bien pourquoi pas à bord de la Station Spatiale Internationale. La NASA annonce l'ouverture de l'ISS aux touristes dès l'an prochain. Bon, ça coûtera quand même un peu cher, 58 millions de dollars le voyage. À côté, la nuit est presque donnée, 35 000 dollars. On espère qu'à ce prix-là, au moins le petit déjeuner sera compris. La météo, Valérie Darmon, on a vu combien ça a été agité ces dernières heures avec les conséquences dont on parlait tout à l'heure en Vendée, au Sable d'Olonne. Alors à quoi faut-il s'attendre ce samedi, Valérie ?
Eh bien, c'est simple. Bretagne, Hauts-de-France, Normandie, les conditions qui vont rester encore bien nuageuses toute la matinée à cause de cette dégradation d'aujourd'hui qui s'évacuera par la mer du Nord. Et puis, le vent va continuer de souffler assez fort, mais moins évidemment que ce vendredi, entre la Seine-Maritime et la côte d'Opale. Des Pays de la Loire au centre, dans le Val-de-Loire, en passant par le bassin parisien, le temps sera plus changeant entre belles éclaircies et passages nuageux. Et dans l'après-midi, il pleuvra de nouveau. Sur le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, les nuages bas sont encore nombreux le matin, mais ensuite, le beau temps revient et vous profiterez, tout comme en Auvergne, Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA et Corse, d'une très belle journée et d'un ressenti estival. Les températures de l'après-midi sont toujours très contrastées, entre 15 à Boulogne-sur-Mer et 30 à Toulon, 18 annoncés à Caen, Aurillac, Évreux et Quimper ainsi que Lille, 20 annoncés à Paris, Limoges et Épinal, 22 à Dijon et Bordeaux, 24 à Toulouse et Auch, 27 à Gap et 28 à Marseille.
La météo signée Valérie Darmon et je vous souhaite une excellente nuit sur Europe 1, toujours en compagnie de Catherine Blanc, bien sûr, pour la Libre Antenne.
Elle accompagne vos nuits. La Libre Antenne, Catherine Blanc sur Europe 1.
Toujours ensemble sur cette libre antenne et ce jusqu'à 1h du matin et c'est au 39-21.
La libre antenne sur Europe 1, Catherine Blanc.
Et nous retrouvons Caroline. Caroline ?
Oui, oui, je suis là.
Alors, donc vous me racontiez toute la difficulté que vous avez, la peine que vous avez avec vos enfants, que vous avez souhaité, désiré, chéri. Et puis, au moment de l'adolescence, les choses ont vrillé. Et me disiez-vous, les choses ont perduré en ce sens. Et vous aviez le sentiment qu'ils ont adopté, finalement, des comportements que vous reconnaissez à votre ex-mari, dans l'exigence, la dureté, ce que vous appeliez aussi caprice, autorité, etc. Hein, c'est bien de ça dont il s'agit. Hein.
Tout à fait.
Alors, et vous me disiez aussi une chose qui était importante tout à l'heure, c'est que vous me disiez jusqu'à ce moment-là de l'adolescence, eh bien, vous étiez la reine du monde. Alors, rappelez-moi, vous avez divorcé à quel moment, quel âge avaient vos enfants quand vous avez divorcé ?
Ma fille avait 21 ans et mon fils 24.
D'accord. Donc, pendant le temps de l'adolescence où ça vrillait un petit peu beaucoup, comme malheureusement trop souvent dans l'adolescence des enfants, pas automatiquement, hein, ne croyons pas que c'est une obligation, mais malheureusement, nombre d'enfants sont tout d'un coup dans des moments de difficulté, parce qu'il est difficile d'accueillir son corps à venir d'adulte, de trouver sa place entre enfance et adulte. Et puis souvent, les enfants se testent, se jouent aux adultes, et souvent, effectivement, en piquant ça et là, des comportements de dite autonomie, ont besoin de montrer qu'ils sont autonomes, pensent par eux-mêmes. Ils ont aussi besoin de penser que leurs parents sont idiots pour avoir le droit de construire quelque chose et surtout pour ne pas les désirer, hein, puisque comme ils deviennent sexuellement petit à petit actifs potentiellement, ils ont besoin que les parents ne soient plus l'objet d'amour qu'ils ont été fortement pour que justement leur désir se porte ailleurs. Donc ça c'est assez classique. Après ça se fait plus ou moins en violence, plus ou moins en douceur, selon les familles. Mais donc dans ce cadre-là, au moment où ils sont dans cette adolescence, comment réagit votre mari? Comment va votre réaction, va votre relation à tous les deux?
Tout à fait. Alors c'est quelqu'un qui a vécu notre mariage comme un célibataire en fait. Alors, sans grand défaut majeur, dans le sens qu'il n'y a jamais eu ni de violence, ni rien du tout, mais indifférent.
D'accord.
Totalement indifférent. Et ma fille, elle a sollicité son père plusieurs fois. Elle en a beaucoup souffert. J'ai essayé de l'aider comme je pouvais, en essayant de compenser ce qui n'est pas possible. J'ai essayé d'en discuter avec mon ex-époux en lui disant « mais je ne peux pas être toi, tu es irremplaçable, elle a besoin de toi, voilà, de ta tendresse, un petit peu de mots gentils, de... Voilà, je lui dis, ben, dis-lui que tu l'aimes, enfin, je ne sais pas. Alors, il me dit, oui, ben, forcément, je l'aime, c'est ma fille, voilà, l'air de dire. Et puis, ce sont des personnes avec qui on ne peut pas discuter, c'est-à-dire, à un moment donné, la discussion est terminée.
Oui, oui.
Voilà, donc, ils disent un truc, et puis, ça s'arrête, c'est fini. Je lui dis, ah, si vous voulez parler, vous parlez seule. Mmh. Alors, ma fille, en a beaucoup souffert. Et d'ailleurs, bon, elle a eu des hauts et des bas avec son papa, d'ailleurs, elle ne l'a pas invité à son mariage, etc. Là, elle l'a retrouvée. Bon, mais je la sens toujours triste par rapport à ce rapport. C'est-à-dire que je sens bien qu'elle est en manque. Voilà.
Bien sûr, je comprends.
Voilà. Quant à mon fils, il était carrément un peu plus dans la petite adolescence. Il était un peu plus dans la peine parce qu'il voyait que son papa n'adhérait pas. Voilà, n'était pas auprès de lui. Et puis, petit à petit, ça s'est transformé en colère. Et une fois, ils se sont affrontés tous les deux, d'ailleurs. Mmh. Et voilà, je veux dire, il a manifesté quand même le fait que c'est sorti à l'occasion de je ne sais quoi, un petit peu plus de colère, voilà, si vous D'accord. voulez. Cependant, moi, entre-temps, évidemment, hein, j'ai surtout à l'approche de leurs 20 ans, je suis allée voir quand même deux psychologues, mm-hmm. dont un psychiatre d'ailleurs. Alors évidemment que j'ai entendu assez souvent que ma fille, n'ayant pas réglé son problème avec son père, forcément c'est un peu la maman qui récupère en fait ce souci. Bon, je veux bien, mais c'est difficile à résoudre. Et par contre... pour mon fils, il semblerait que ce serait moins grave le comportement de son papa parce que j'ai compensé, parce qu'un fils serait plus en besoin de tendresse de sa maman. Enfin, il était plus sûr de mon amour, en fait.
Oui, en fait...
Donc, ça l'aurait...
Oui, ce que vous ont dit les psy ou le, enfin, psychiatre ou psychologue est en effet autour de ce qui se construit dans la vie affective de l'enfant, c'est-à-dire que naturellement, et c'est bien avant l'adolescence, hein, c'est au moment des 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans de l'enfant, il y a un besoin pour la petite fille d'être comme sa maman et comme sa maman, c'est-à-dire aimée de son papa. Puisque maman est aimée de papa, et pour le petit garçon, être aimé de sa maman. Donc, voilà. Évidemment que quand arrive l'adolescence, ces questions se reposent, bien sûr, puisque votre fille a besoin de sentir qu'elle va être un être aimable, et aimable par les garçons qu'elle va croiser et rencontrer. Et évidemment que l'inquiétude qui est la sienne d'avoir été... ou pas suffisamment été plutôt aimé par son papa, l'a fait douter et l'a fait être en difficulté, évidemment, quand votre fils, lui, sur ce plan-là, a trouvé les réponses, puisqu'il a trouvé une maman sécurisante, cajolante, aimante, de façon plus facile. Ceci étant, votre fils, il a besoin aussi de se forger un modèle d'un homme, et que donc ce modèle s'apparente aussi au modèle qu'il a pu recevoir de son papa, et notamment de la relation entretenue entre son papa et sa maman, pour lui dire ce qu'est une relation homme-femme. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'on ne fait que la répétition de nos parents. Parfois, on fait même l'inverse pour faire des réparations, notamment, et donc on peut justement prendre le contre-pied, ce qui raconte de toute façon toujours le fait qu'on est toujours en quête de son parent, parce que qu'on fasse pareil ou pile poil à l'opposé, ça veut dire que le référentiel est toujours le parent.
C'est toujours là, bien sûr.
Voilà. Alors évidemment, une maman, et c'est un peu idiot de penser qu'une maman doit compenser, une maman ne peut pas compenser. Parce qu'une maman reste une maman. Elle peut simplement que proposer une vision du monde et de la relation pour que l'enfant puisse faire son marché, en quelque sorte, et s'appuyer sur cette vision-là pour pouvoir justement essayer de contrebalancer les blessures que l'enfant peut avoir avec l'autre parent. Mais quand une maman cherche à remplacer et faire son rôle et faire le rôle de papa, eh bien évidemment que l'enfant va se rebeller parce que
il n'est pas dupe, il sait très bien que ce n'est pas papa qu'il a en face de lui. Et puisque maman se prend pour papa, eh bien, maman va prendre la violence que papa pourrait recevoir si papa était face à moi. Vous voyez, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que... allez-y.
Non, ce que vous dites, c'est absolument passionnant parce que c'est exactement la conversation que j'ai eue avec mon fils. À un moment donné, je lui ai dit, mais je sais que j'ai été obligée d'assumer le rôle de papa parce que quand même, à un moment, je veux dire, l'autorité, il faut bien la faire jouer parce que mon fils, par exemple, qui a été, un jeune homme tout à fait épanoui et tout, bon, il fallait le retenir pour les sorties, par exemple.
Hein, bien sûr.
Il serait sorti, matin, voilà, enfin, classique, il n'y a rien de particulier. Donc, qui est-ce qui disait ça c'est autorisé, ça c'est interdit? C'est maman. L'heure, c'est maman. Enfin, je veux dire, tu tombes en panne avec la voiture, c'est maman. Donc, forcément, je me suis trouvée moi-même
coincée
très
entre
ennuyée.
Oui, coincée et entre voilà. Deux rôles, parce qu'il a fallu de toute façon, indépendamment du rôle de maman et papa, parce que ce n'est pas le rôle de papa de faire respecter les horaires plus que maman, ou ce n'est pas le rôle de papa de se mettre en colère plus que maman. Mais
bien
c'est
sûr.
De toute façon un rôle parental, et le problème, c'est que
à
vous
partager.
Étiez... Voilà, c'est qu'il n'y avait pas justement cet équilibre pour que... Vous puissiez être parfois une maman en colère et une maman tendre.
Exactement.
À d'autres moments, et qu'il y ait en face un papa en colère et un papa tendre. Et puis à certains moments, des parents qui vont dans la même direction et qui du coup posent un interdit ferme à l'enfant parce qu'ils sont raccord l'un avec l'autre. Et puis à d'autres moments, des moments où on discute la situation parce qu'on a aussi le droit d'avoir deux points de vue différents. Ça, c'est dans l'idéal. Mais évidemment qu'à partir du moment où un des parents est absent, que ce soit par mauvaise volonté ou difficulté de trouver sa place de père, parce que souvent les papas ils savent pas très bien prendre leur place, parce que souvent les mamans ont gardé les bébés près d'elles au prétexte qu'elles les ont eus dans leur ventre et qu'elles les connaissent mieux et qu'ils sont en lien charnel de façon très forte. Et souvent d'ailleurs des mamans qui éliminent les papas aussi, parce qu'elles sont tellement dans ce rapport un peu fusionnel avec leur enfant, étant comme des petits animaux, un petit peu un côté très charnel, très animal entre la mère et l'enfant, qui fait que le père ne trouve plus sa place. Et souvent, ben, du coup, il va trouver ailleurs une réalisation, et notamment, par exemple, dans son métier ou dans son journal. Et donc, de fait, puisqu'il a été exclu, puisqu'il n'est pas éprouvé au quotidien et reconnu au quotidien aussi par la mère, hein, pour avoir dans sa fonction, eh bien, il finit, si, pour peu qu'il soit un peu maladroit et pas très revendicatif de son rôle paternel, eh bien, il finit par ne plus du tout le jouer. Et c'est ça qui est compliqué dans les familles, parce que les mamans sont dans une inquiétude. Oui.
Il a commencé très très tôt, puisque quand ils étaient petits, tout petits, il les supportait pas.
Mm-hmm.
Il supportait pas, vous savez, le petit enfant qui a
pleure,
10 mois, qui pleure, qui tire les tiroirs. Il me disait, comment tu fais pour les supporter?
Vous
voyez, donc je veux dire, déjà, c'était très tôt. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué de l'indifférence. Je veux dire, c'est pas personne ne lui a imposé, bien au contraire, parce que nous le sollicitions. Et puis combien de fois j'ai menti aux enfants pour leur dire n'importe quoi, pour leur faire plaisir, enfin, alors que je savais que je mentais. Tout ça parce que je voulais qu'ils aient quand même l'image d'un papa, oui, gentil, ceci, cela. Donc j'essayais de l'attirer vers nous. Mais c'est quelqu'un qui, qui donne une grande priorité à son image de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit un gentil voisin, qu'il soit très coopératif avec tout le monde, très souriant. Il faut que son image est très importante. Donc le contraste a fait très mal aux enfants et il m'a fait mal à moi.
Oui, mais c'était aussi
parce que je suis pas. C'est difficile d'avoir des compliments de l'extérieur, de la famille, et puis de se retrouver à la maison avec quelqu'un qui n'est pas du tout la même personne.
Et oui, parce que
ça fait très mal.
Bien sûr, mais je comprends. Ça ne veut pas dire qu'il aime moins les personnes à l'extérieur, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais souvent parce que justement, l'enjeu à l'extérieur, il est important pour maintenir une image sociale et qu'à l'intérieur, il n'a pas trouvé des appuis. Et comme je vous disais, c'est, alors il faudrait peut-être aussi remonter dans son histoire personnelle, l'idée qu'il se fait d'être père, la place qu'il imagine être celle d'un père, l'idée de sa capacité à pouvoir prendre cette place. Et effectivement, on n'est pas tous égaux dans la patience que nous avons avec les enfants qui bougent, tempêtent, crient, pleurent, bousculent. Et effectivement, même les mamans parfois ont du mal hein, et n'y parviennent pas et disent des paroles malheureuses ou posent des actes malheureux aussi. Mais du coup, évidemment, souvent les hommes, sous prétexte justement qu'ils ne sont pas le premier récepteur en l'enfant, en profitent pour prendre un peu la peau d'escampette. Et pour autant, ils ont besoin de se sentir quelqu'un. Alors, s'ils n'ont pas pu se sentir quelqu'un à la maison de leur propre fait ou d'un concours de circonstances, ils valorisent beaucoup l'extérieur pour que l'extérieur leur renvoie qu'ils sont quelqu'un. Et donc, à ce titre, ils font très attention aux autres à l'extérieur, ce qui va évidemment créer un malentendu. C'est pour l'épouse et puis pour les enfants, c'est qu'ils ne nous aiment pas assez pour faire cet effort. Alors que ce n'est pas une question tant d'effort, c'est une difficulté très importante de se sentir en capacité d'y arriver. Alors que, j'allais dire, le jeu un peu de la comédie, de la relation à l'extérieur qui n'engage pas beaucoup puisqu'on croise les gens et on s'en va bien vite, c'est pas la même chose que la vie au quotidien, seconde après seconde, avec les hauts et les bas des uns et des autres.
Oui, non, mais je comprends tout à fait ce raisonnement que j'ai trouvé d'ailleurs dans un de mes livres, je ne sais plus lequel effectivement, mais si vous voulez, je ne veux pas non plus faire porter sur ses épaules tout le parcours que j'ai eu avec mes enfants, parce que je pense que quand on a divorcé, que je me suis retrouvée seule avec les enfants, qui étaient quand même assez grands, voire maintenant ils ont quand même 40 et 43 ans, bon, je pense qu'ils sont quand même un peu responsables de leur comportement sans trop, je veux dire, rejeter sur leur père. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que effectivement, cette attitude qui nous a blessés, elle nous a d'autant plus blessés que j'avais donc, j'ai toujours une nièce et un neveu qui sont ma nièce et mon neveu hein, de mon côté. Et qu'il a été à la disposition totale de ma famille en nous abandonnant, nous, complètement. C'est-à-dire que, voilà, il était à leur disposition. Je veux dire, le dimanche, c'était je rends service à mon père, enfin, en parlant du mien, hein, voilà, à mon neveu, à ma nièce, enfin, voilà, avec beaucoup de plaisir. Et puis quand mes enfants, je ne sais pas, ma fille, elle a fait un spectacle de danse, il n'est pas venu, parce qu'il n'avait pas envie. Et mon fils avait gagné, il est allé faire un tournoi de foot, on vient le chercher, il avait été nommé meilleur joueur, il attendait son père.
Bien sûr. Mais vous voyez,
il n'a pas compris.
Bien sûr, mais vous voyez ce que vous dites, Caroline, tout à l'heure vous disiez une phrase qui est presque la clé, c'est que quand vous lui disiez « mais tu devrais dire à tes enfants que tu les aimes », et la réponse était « mais ce sont mes enfants, alors bien sûr que je les aime ». C'est-à-dire que dans les autres relations, et notamment quand c'est avec sa belle famille, votre famille, il y a une opération de séduction nécessaire, sinon il n'est pas de la famille. Donc il y a toujours à conquérir la relation. Et il a eu tendance très certainement à penser que dans la mesure où vous étiez sa femme et dans la mesure où ses enfants étaient ses enfants, il n'y avait pas de conquête à faire, il n'y avait pas de rencontre à faire. Et ça, c'est dommage parce que trop souvent, et là je sors du simple cadre de votre famille et de votre histoire, mais trop souvent, nous ne prenons pas soin des nôtres parce que les nôtres nous sont acquis. On oublie que la relation, elle s'écrit, elle se construit, elle nécessite qu'on œuvre à la relation, qu'on ne s'assoie jamais sur ses lauriers, qu'on reconsidère la relation, qu'on reconsidère son propre positionnement, qu'on reconsidère le désir de l'autre, les possibles de l'autre et ses propres désirs et ses propres possibles.
Comme un couple.
Comme dans un couple, exactement. Et trop souvent, nous faisons l'impasse parce qu'on se dit « ça, c'est bon, ça, c'est dans ma poche, donc je dois conquérir le monde. Pour ce qui m'appartient, je n'ai plus rien à faire. » Et c'est une erreur que font bon nombre de parents Parce que c'est vrai, même des parents qui battent leurs enfants, par exemple, eh bien, les enfants les aiment. Et donc, il n'y a presque pas besoin d'avoir à faire attention d'être un bon parent. Et l'erreur, c'est d'abord de louper quelque chose de très important, qui est la rencontre entre un enfant et un parent. C'est bien sûr le risque de faire beaucoup de mal, mais c'est aussi le risque de ne pas se réaliser soi-même. Parce qu'aimer l'autre, c'est aussi une façon de s'aimer soi. Aimer l'autre est donner à l'autre, accueillir l'autre, découvrir l'autre, le faire grandir, s'émerveiller de qui il est, quand bien même il est mon enfant ou mon mari ou ma femme, eh bien, c'est se faire du bien à soi. Voilà, on se fait du bien dans le regard d'étrangers que l'on croise et parfois qu'on ne reverra pas. Et ce sont des petits shoots de plaisir quand il y a dans la relation au quotidien à construire, reconstruire, rebâtir, resolidifier, consolider sans cesse et s'émerveiller toujours. Voilà Caroline, je vais, en rester là.
Bien sûr, merci.
Et vous inviter justement à réentendre peut-être ça pour réenvisager comment vous pourriez créer du lien avec vos enfants, non pas seulement pour qu'ils vous fassent du bien, mais pour le bonheur d'avoir retissé quelque chose et leur ouvrir des portes.
Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil.
Je vous en prie, Caroline. Passez une très bonne soirée, une bonne nuit.
Bonne soirée.
Au revoir.
Sur Europe 1, Catherine Blanc vous écoute et vous accompagne.
Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir. Bonsoir Catherine. Je me suis permise d'appeler la libre antenne.
Mais vous faites bien, permettez-vous. Vous êtes,
oui,
c'est votre libre antenne.
Je ne sais pas si je vais très bien m'exprimer. Parce que
ne vous inquiétez pas, on va y aller toutes les deux pas à pas. Vous savez, moi, de temps en temps,
oui.
je savonne et je me demande si je sais parfois bien m'exprimer. Vous savez, c'est comme ça.
Oui. Il m'arrive des événements et je me pose la question si je suis pas née sous une mauvaise étoile. C'est une croyance, mais ça se renforce et ça me perturbe quelque part. Par exemple, du genre, j'ai dit à Amandine, je crois.
Oui, Amandine, oui, qui vous a reçu au standard.
Oui, voilà. Au mois de novembre, j'avais eu un accident de voiture, dans le sens que je revenais de chez quelqu'un et donc c'était le soir, il faisait nuit. J'étais dans une rue, dans la ville où j'habite, et au dernier moment, a traversé devant moi une petite fille qui a lâché la main de sa maman. Et donc j'ai pilé, je ne roule jamais vite, donc j'ai pilé, mais je l'ai renversée et j'ai l'image de cette petite. Comme un polichinelle, c'est horrible, quoi. Donc j'étais complètement prostrée, je bougeais plus, enfin, m'en tétanisée, et la police est arrivée, bref. Donc là, voilà. Et puis cette semaine.
D'abord, dites-nous, cette petite fille va-t-elle bien?
Oui, j'ai eu une audition par une brigadière, et elle avait vu la maman et la petite la veille, et qui m'a dit, mais elle est très vive. Bon, c'est normal, elle a été 48 heures en observation
bien
à l'hôpital.
Bien sûr.
Et elle avait de l'air, je crois, entre les poumons. Mm-hmm. Et ça s'est résorbé. Et donc voilà, heureusement pour moi. Et la maman n'a pas porté plainte. Donc tant mieux. Ça se termine toujours bien, quand même. Je tiens à le préciser.
D'accord.
Et cette semaine.
Pas si mauvaise que ça, l'étoile. D'accord.
Et cette semaine. Dans une avenue pas éclairée, pareil. Donc je roulais tranquillement, et en plein milieu de l'avenue, j'ai vu au dernier moment un cycliste qui était à l'arrêt, pas éclairé, et donc je suis arrivée sur lui et pareil. Donc j'ai percuté, donc je suis sortie de la voiture, je me suis dit c'est pas vrai, ça recommence. Et
ça fait beaucoup.
Oui, il s'est relevé. Oui, je trouve, oui. Mm-hmm. Il s'est relevé. Et apparemment, il n'avait rien. C'était un jeune. J'aurais pas aimé affaire à lui dans, en d'autres lieux, mais bon, voilà. Mm-hmm. Il y a un autre jeune qui est arrivé et qui m'a dit, mais vous n'étiez pas éclairé. Mais j'ai dit, si, je crois que c'est votre ami qui n'était pas. Enfin bref, pour dire que là, ça me travaille. Et je l'ai même dit à quelqu'un que je vois, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Je suis née sous une mauvaise étoile. Et dans une ville où je vivais avant, il y avait une dame, je me rappelle, que je connaissais, c'était pas une amie, hein, c'était une relation, mm-hmm. et elle m'avait dit, vous êtes née ou tu es née, je me rappelle plus, vous voyez ou tutoyez, tu es née sous une mauvaise étoile, et elle, à partir de ce moment-là, elle m'a plus fréquentée, comme si j'étais une pestiférée.
Et là, quand elle vous dit ça, vous avez quel âge?
Oh ben, j'étais dans l'âge, dans l'âge adulte. Hein.
L'âge adulte, d'accord.
Mmh. Oui, oui, oui. Mais disons, et en plus, ce qu'il y a en moi, c'est quand je vis des choses comme ça, par exemple, quand il m'est arrivé ce fait, cet événement, il y a 2-3 jours, là, ça m'a travaillé parce que il était tard, donc je ne pouvais pas le dire à des gens. Mais ça m'étouffe. Donc j'ai besoin de le dire à des gens que je connais.
Que vous êtes de les prévenir que vous êtes né sous une mauvaise étoile?
Non, c'est pas ça, mais de leur raconter ce c'est passé.
D'accord, bien sûr, je comprends.
Et ça m'étouffe. Il y a des gens pour lesquels ils n'ont pas ce besoin de se raconter, enfin, comment dire, c'est pas se raconter, mais raconter ce qui arrive un peu de travers.
Si bien sûr, bien
et
sûr.
Que j'ai tendance à paniquer.
Bien sûr.
Dès que, comment dire, dès que ce n'est pas comme c'est prévu, c'est un peu dévié, pas dans tout, hein, parce que j'ai eu des choses très difficiles à vivre, et quelqu'un m'avait dit, mais c'est chapeau, hein, parce qu'il y en a d'autres qui seraient morts. Mm-hmm. Donc vous avez
une force, une résilience.
Oui, mm-hmm. oui, une résilience. Je ne sais pas, Boris Cyrulnik, mm-hmm. voilà, ou d'autres personnes.
Mais chacun l'a fait à sa mesure, en tout cas, chacun tente.
Mais j'aimerais bien avoir une résilience plus mm-hmm. forte. Parce que, en fait, je n'ai plus de moteur non plus, j'ai plus de travail donc, mm-hmm. depuis plusieurs années. Je me suis laissée un peu aller. J'ai vécu avec quelqu'un, ça n'est pas très bien terminé, bien que je sois toujours en lien avec cet homme, mm-hmm. En lien téléphonique, hein, je parle. Mm-hmm. Mais bon, il y avait une communication qui était difficile. Il y avait...
Rapprochez-vous du micro peut-être, Pascal, parce que je vous perds un petit peu.
Ah, d'accord. Il y avait une communication qui était difficile, un peu de violence verbale. Mm-hmm. Et puis, j'ai vécu un abus dans ma jeunesse, un abus par un religieux. Mm-hmm. Et j'ai voulu revisiter cette histoire en 2015, croyant que ça allait me libérer. Or, ça ne m'a pas du tout libérée. Au contraire, ça m'inquiète.
Et la revisiter de quelle manière?
Eh bien, savoir si ce frère qui avait abusé de moi... Il n'y a pas eu de viol en tant que tel, mais il y a eu des attouchements.
D'accord.
Il y a eu, donc, je pense que c'est un peu, c'est une agression. C'est une trahison de ma confiance, de la confiance de mes parents, parce qu'il était reçu chez mes parents aussi. Mm-hmm. Donc, et il y avait une pression psychologique. Il ne voulait pas que je me marie. Donc, petit à petit, étant très jeune, je suis rentrée dans toutes ces croyances.
Bien sûr. Et alors, justement, quand vous disiez que vous avez voulu revisiter cette histoire, de quelle manière avez-vous tenté de la revisiter? C'était en allant le voir? C'était quoi?
Non, pas le voir, parce que j'aurais pu être moi-même. Je ne sais pas quelle aurait été ma réaction. Mais en essayant de savoir s'il était toujours vivant.
D'accord.
Mais j'avais fait j'avais essayé de faire cette entreprise en plusieurs fois parce que c'était trop douloureux pour moi. Mmh. On parlait beaucoup des... En fait, j'y prêtais pas attention à tous ces abus dans l'église, etc. Apparemment, j'y prêtais pas attention, mais je pense qu'inconsciemment, il y avait quelque chose qui se préparait en moi.
Oui, enfin, vous voulez dire que dans les médias, le fait qu'on parle des abus, etc., dans l'église...
Oui, je restais indifférente.
Voilà.
Ça ne me touchait pas, apparemment.
Oui.
Mais en fait, intérieurement, peut-être inconsciemment, enfin, ça c'est vous qui pouvez me le dire, il y avait quelque chose qui se travaillait déjà
bien
en
sûr,
moi.
Bien sûr, bien sûr.
Quelque chose qui se... mûrissait pour que je me prépare à avoir ce mouvement-là, en tout cas d'essayer d'appeler. Mais je vous dis, j'avais essayé d'autres années et j'avais pas pu aller.
Et ça, c'était il y a combien de temps, Pascal ?
En 2015,
donc c'est très récent. Pour vous avez 54 ans, donc c'est très récent.
Donc, oui. D'accord. Et donc, je voulais savoir si ce frère était toujours vivant. Et j'avais téléphoné à Reims, il y avait une communauté de frères qui étaient là. Et curieusement, il y avait un homonyme, quelqu'un qui s'appelait pareil, mais je n'ai pas reconnu sa voix, une voix plus jeune. Mm-hmm. Et je me suis dit, non, ce n'est pas ça. Il m'a renvoyé à la congrégation de Nantes, mm-hmm. là où je l'avais connu. Et donc, j'ai appelé et j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Mais je pense qu'il est décédé, appelé en Bretagne le provincial. » Alors, j'ai eu de la chance parce que le provincial était beaucoup absent et là, je suis tombée, on a pu me le passer. Et j'ai pu lui raconter ce qui s'était passé et il m'a dit…
Donc, le frère en question qui a abusé de vous ou le provincial ?
J'ai raconté ça au provincial.
D'accord, voilà.
Et il m'a dit qu'il était décédé.
D'accord.
Je pense qu'il valait mieux pour lui.
D'accord.
Et ce provincial est venu me voir deux jours après, alors qu'au départ, il m'avait dit, mais je ne pourrais pas parce que je suis surbookée au niveau de mon agenda. Et puis, il m'a rappelé en me disant, bah, écoutez, je peux me désister et venir vous voir dans deux jours. Donc, je m'en inquiétais beaucoup, j'avais beaucoup pleuré. Et puis, il est venu me voir et on a pu parler ensemble.
A-t-il présenté des excuses de la communauté religieuse ?
Non, il ne m'a pas présenté des excuses.
D'accord.
Et après,
c'est ce que vous attendiez ?
Oui.
Une reconnaissance et des excuses ?
Oui. Alors, c'est vrai qu'on a parlé ensemble, mais ça ne m'a pas guéri du tout. Mmh. Au contraire, je pense que, et ça m'inquiète, ça m'a cassé. Enfin, il y a tout un tas de facteurs, le fait que je fasse mon travail, que je procrastine, etc. Ça ne me satisfait pas du tout. La peur de ne pas réussir.
On ne vous entend pas très très bien, Pascal. Restez bien proche du micro, s'il vous plaît, parce qu'on vous perd un petit peu de temps en temps.
D'accord. Le fait que je procrastine, c'est le fait que sans doute j'ai peur de ne pas réussir. Je me mets la barre haute. Je ne vis plus bien l'échec. J'ai eu des échecs, donc au lieu d'expérimenter, je reste sur place. Quoi.
Alors justement, pardon Pascal de vous couper. Comme vous me disiez que vous avez le sentiment d'être né sous une mauvaise étoile, parlez-moi justement de votre naissance rapidement. Vous êtes né dans quel contexte? Quelle a été la petite histoire de votre naissance dans le ventre de votre maman, la venue au monde ou les quelques jours qui ont suivi?
C'est bizarre, moi, quand je pense à ma naissance, j'ai cette sensation d'étouffement.
D'accord.
Or, j'ai demandé à ma mère si j'avais pas eu le cordon ombilical enlacé autour de moi, et elle m'a dit que non. Et cette sensation aussi de mort.
Mm-hmm.
Comme si, je sais que j'avais vu une thérapeute à un moment donné sur une ville où j'habitais,
mm-hmm.
et qui était très bien d'ailleurs, et qui m'avait dit « On vous parlait pour deux, est-ce qu'il n'y a pas eu un jumeau à côté de vous qui est décédé ?» Et ça, j'en avais parlé à ma mère, qui m'a dit « Mais non, mais Pascal, tu racontes n'importe quoi, enfin bon, bon. » Alors ça en est resté là, mais j'ai toujours, à un moment donné, j'achetais pour deux. Vous voyez? Et j'ai toujours eu, très petite, j'avais peur de la mort, je voulais pas me coucher, je criais, ce qui réveillait ma sœur plus jeune, et elle se mettait aussi à hurler en disant que j'étais énervante, quoi, et que, mais cette sensation de noir, m'angoissait. J'étais une petite fille très angoissée.
Alors, vous voyez, Pascal, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il y aurait aussi beaucoup de choses à chercher. Vous avez fait un travail thérapeutique Et je veux croire que vous avez certainement des fils que vous avez tirés ou que vous continuerez à tirer de votre côté. Bon, alors déjà, parce que évidemment, par exemple, ce que vous venez de dire par rapport au fait de cette psy qui vous disait est-ce qu'il n'y a pas eu un jumeau, etc. C'est sûr que c'est très difficile de pouvoir faire les interprétations justes quand un patient va évoquer cette idée de « on est deux ». Parce que ça peut vouloir dire en effet une idée d'un bébé mort, un jumeau, mais ça peut être aussi un bébé mort avant votre naissance, comme une fausse couche.
Oui, mais ce qui est curieux, Catherine, c'est que je rencontre souvent des gens qui sont nés de triplés. Par exemple, mon ancien ami était né, lui, de triplés.
Donc vous cherchez... D'accord. Vous cherchez vous êtes entouré de personnes qui racontent une fratrie gemellaire, par exemple.
Souvent, inconsciemment sans doute, ou je pense à une amie qui avait un jumeau qui est décédé. Alors ça m'a interpellée, je me suis dit, bon, c'est peut-être comme ça, mais bon, je ne suis pas sûre, je ne sais pas, je ne sais pas du tout.
En fait, c'est
une interrogation.
Bien sûr, c'est toujours difficile de savoir si c'est une réalité de deux fœtus réellement.
C'est ça qui est
Ou est-ce que ça fait partie aussi de nos fantasmes? Parce que dans notre vie, on a souvent le sentiment de n'être qu'une moitié. Parce que je suis une fille, je ne suis pas un garçon. Je suis un garçon, je ne suis pas une fille. Et on a tous l'expérience, quand on naît, de s'être vécu un peu comme maman, donc une fille, comme papa, donc un garçon. Et puis un jour, on découvre qu'on est ou une petite fille ou un petit garçon et qu'on n'est que l'un ou que l'autre. Et du coup, il y a déjà une conscience de la mort d'une partie, d'une idée de soi, c'est-à-dire de soi au féminin ou dans votre cas au masculin. Donc c'est difficile de savoir si on est vraiment sur quelque chose de de réel, comme d'autres diraient peut-être d'une vie antérieure, comme d'autres diraient de je ne sais quoi, d'une réincarnation de je ne sais quoi. Enfin, vous savez, selon les cultures, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et c'est important de pas trop rapidement interpréter des choses, mais plutôt essayer de voir la couleur de votre discours pour s'en approcher le plus.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai du mal à faire des choix. Je reste... au bout d'un moment, je fais un choix, mais effectivement, par rapport à un renoncement, j'ai beaucoup de mal. Et aussi, à l'adolescence, ce qui est sûr, c'est que j'avais une mauvaise relation avec mon père. Je me refusais dans ma féminité. Et donc, quand mon corps a commencé à se transformer, d'abord, je suis tombée, j'ai fait une anorexie mentale, mais liée à plein de facteurs, pas qu'aux facteurs de mon père qui avait dit que j'étais trop ronde. Donc ça, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Mais j'avais une amie qui faisait aussi un régime, qui était tombée dans l'anorexie. Je la trouvais très belle. Donc déjà, ça m'interpellait. Il y avait plein de choses en moi, quand je regarde mon histoire, qui faisait que je me préparais une anorexie mentale.
Alors, effectivement, on retrouve souvent dans des angoisses de jeunes filles, des angoisses liées à... Parce que l'anorexie, elle raconte beaucoup de choses, et notamment une difficulté d'accueillir sa féminité et son désir sexuel. Et dans certains cas, c'est lié à la relation que l'enfant a pu imaginer ou entretenir dans la relation à son papa. Mais dans votre cas, on y entend peut-être plus volontiers le fait justement que dans votre enfance, eh bien, un homme censé être un protecteur a posé des actes qui vous ont plongé dans une vie d'adulte, de grande, et qui ne concernaient pas la vie de la petite fille. Et du coup, l'accueil du corps sexué, l'accueil du corps de plus en plus désirant, devient anxiogène, et pour ne pas désirer, eh bien, d'une certaine manière, la jeune fille va reporter son angoisse d'être animée d'un désir qu'elle mélange avec animée de faim. Donc, elle va essayer de maîtriser sa faim et de ne plus manger pour ne pas être, symboliquement bien sûr, sexuellement active. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, pour ne pas être désirable, en fait.
C'est pour ne pas être désirable et pour ne pas désirer. C'est-à-dire qu'elle ne va même pas désirer la nourriture. Vous voyez, elle va s'appliquer à ne pas désirer la nourriture pour ne pas désirer de façon plus générale.
Je crois que même si mon père, à un moment donné, m'a dégoûté, me dégoûtait vraiment, je crois que dans mon étant petite fille, c'était un homme qui était très beau, Et je pense que je devais avoir un désir. Et j'avais peur, oui, effectivement.
Peur de votre désir. Et c'est pour ça, vous voyez, le terme que vous avez dit, mon père me dégoûtait. Donc, c'est perdre le goût.
Oui.
Donc, le goût, vous voyez bien, c'est alimentaire. C'est,
perdre le goût,
m'assurer que je n'ai pas le goût. Et donc, je m'organise autour d'une anorexie qui me permet de n'avoir le goût de rien. Sauf que, évidemment, ce n'est pas parce qu'on se prive de manger qu'on n'est pas en réflexion permanente sur la nourriture, bien au contraire. Et du coup, c'est quelque chose qui devient de plus en plus anxiogène en réalité. Alors, il y a un autre point que vous évoquiez qui est important aussi, c'est finalement ce que vous disiez de « on m'a dit que j'étais née sous une mauvaise étoile et puis après, cette femme n'a plus voulu me fréquenter ». Ces croyances, vous avez parlé de croyances, vous parlez de religieux aussi, puisque c'est un religieux qui est à l'origine de cet attouchement.
Oui, j'avais envie de me marier, mais en même temps... J'avais très peur de l'engagement. J'ai eu des propositions et ça me faisait peur, notamment quelqu'un que j'avais rencontré sur un site, qui était très bien et qui était prêt à m'accueillir dans la maison qu'il a achetée dans l'Orléanais. Et je n'ai pas voulu y aller. J'avais pas le moteur. Je l'ai rencontré une fois. C'est quelqu'un de très intéressant, mais le physique aussi est important pour moi-même.
Bien sûr, mais c'est ce qui est tout à fait légitime, hein, de toute façon. Mais vous voyez ce que vous dites, Pascal. Vous dites, je n'ai pas le moteur. Et c'est intéressant parce que...
Ça m'inquiète.
Voilà, mais le moteur, en fait, c'est quoi? Le moteur, c'est une pulsion de vie. Une pulsion de vie, et c'est un désir, au sens général du terme. Hein, j'ai le désir de faire ceci, de faire cela. J'ai l'ambition de ceci, l'ambition de cela. Et en fait, c'est un peu comme si... vous avez une lecture des autres sur vous comme étant un peu comme la Belle au bois dormant ou la fée Carabosse. Elle dit oui, elle sera jolie, elle sera une princesse, etc. Mais, et elle vivra, ok, mais elle se piquera à la quenouille et elle mourra. Et donc, il y a comme si vous aviez fait de la parole des autres la parole qui arbitre de qui vous êtes. Et comme si vous n'aviez pas le moteur, vous ne vous autorisiez pas à avoir vous-même le moteur de votre propre processus. Ou peut-être que cet abus que vous avez subi dans votre enfance, comme si ça avait délégué à l'autre le rôle de l'action, en quelque sorte, du timing qui devenait le vôtre, sans que vous puissiez être actrice de votre positionnement, de votre éloignement. Alors à ce moment-là, vous êtes petite et vous êtes face à quelqu'un en qui on a désigné qu'il était... Enfin, les parents ont désigné dans leur seule invitation, dans leur croyance religieuse.
Quelque chose de sacré, d'intouchable.
Exactement. Et donc, l'intouchable se permet de toucher et du coup se permet...
Exactement.
Et vous ne vous permettez pas de bousculer l'admiration parentale à l'égard de cet homme, et vous finissez par être le jouet, le fruit de l'extérieur. Et ça finit par être une petite fille qui se jette sous les roues de votre voiture, un cycliste qui, d'une certaine manière, se met dans votre axe, un homme, donc, quand vous êtes petite, qui vous bouscule dans votre sexualité, et puis une femme qui dit que vous avez une mauvaise étoile, à tel point que vous n'avez plus le ressort de vous dire « Non, je ne suis pas née sur une mauvaise étoile ». Et puis d'ailleurs, au-dessus de notre tête, nous avons plein d'étoiles, des bonnes et des mauvaises. Alors quand je dis des bonnes et des mauvaises, je fais référence bien sûr à la lecture de l'astrologie. Mais tout ça est mouvant. Elles bougent, les étoiles, il n'y en a pas qu'une. Et elles ne me désignent pas. Il n'y a pas un extérieur qui me désigne. Je suis à me réinventer.
Mais le rapport que vous faites avec le cycliste et la petite fille, c'est quoi exactement le lien avec cet homme qui... le fait que la parole des autres devient pour moi une parole qui prend toute ma vie et pour laquelle je suis subordonnée, en fait.
C'est ça, c'est-à-dire, en fait, ce sont des accidents de vie, ben, ça nous arrive tous, on espère tous, évidemment, ne jamais avoir à se trouver dans une situation où, à notre insu, nous créons un tort à autrui par sa façon de se comporter, par le fait qu'il n'est pas éclairé, par le fait qu'il jaillit comme ça tout de suite. Et on est un peu à la merci de ça, parce qu'on a beau être vigilant en voiture, à moins de ne pas rouler, eh bien, y a toujours la possibilité de quelqu'un qui surgit, et quand bien même on a la maîtrise de son véhicule, on roule tous, même en roulant oui. doucement, on roule tous avec une impossibilité de freiner à temps si un enfant par exemple sort entre deux voitures. Donc on vit avec le oui, risque de l'autre en quelque sorte.
Mais je me souviens de quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas si longtemps, mais comment ça fait qu'il arrive des choses comme ça, Pascal?
Alors, ça c'est sûr. Alors peut-être que, comme vous parlez d'étoiles, peut-être faudrait-il un peu voir, il y a du côté de l'astrologie, si vous voulez, pour voir quand les étoiles vous sont un peu moins favorables, pour être un peu plus vigilante, peut-être, si vous êtes intéressé par l'astrologie. Je dis ça parce que vous parliez d'étoiles, mais c'est peut-être aussi de se dire, moi-même, je me suis conditionnée comme étant...
une mauvaise étoile.
Voilà. Et donc, du coup, d'une certaine manière, j'accrédite et puis j'attire à moi. C'est-à-dire que, plus je vais me dire, et c'est ce que a développé notamment la pensée positive, ou il y a un japonais qui a fait des expériences, son nom m'échappe là, mais je vais peut-être le retrouver à temps, qui a fait une expérience pour voir quel était l'impact des mots sur les molécules d'eau. Et en l'occurrence, vous avez entendu parler de ça ? C'est-à-dire qu'à partir du moment... Alors, il se faisait ça un petit peu. Il avait mis d'ailleurs notamment deux bols d'eau avec du riz. Et sur un bol, il était question de dire, adresser au bol « je t'aime » et sur l'autre « je te hais ». Et un certain nombre de temps après, je crois que c'est près d'un mois ou trois semaines, eh bien, le bol auquel on a adressé le « je te hais », alors qu'ils sont de la même eau, le même riz, la même exposition, eh bien, celui-là noircit, pourrit, quand l'autre ne l'est pas encore. Et en fait, pourquoi il fait ça ? Parce que nous sommes constitués d'eau, et majoritairement. Et donc, tout l'intérêt pour lui, c'était de savoir comment la parole prononcée sur la molécule d'eau, si elle entraîne une désorganisation de la molécule, pensez donc, quand on se dit qu'on est né sous une mauvaise étoile, à force de se rabâcher qu'on est né sur une mauvaise étoile...
Une mauvaise étoile, arrive des choses...
Voilà, on finit par... Alors, je ne suis pas en train de dire que ça y suffit de dire « je suis la meilleure, je suis la plus forte, je suis extraordinaire ».
Oui, mais comment échapper ça ? Comment me libérer de ça ?
Ah ben déjà, ça, c'est de vous autoriser à vous penser autrement. Parce que il faut déjà que l'extérieur, et c'est tout l'art, même si je reprends le conte de La Belle au bois dormant, c'est qu'il est important que je puisse ne pas me réduire à ce que l'on a dit de moi. Et si je n'étais pas ce qu'on a dit de moi ? Et si je n'étais pas ce qu'on a fait de moi, c'est-à-dire le jouet de cet homme, par exemple ? Et ce n'est pas parce que je revisite l'histoire ou je repense à l'histoire que je la remets en scène. Justement, je la mets à distance. J'ai aujourd'hui 54 ans. Quand vous avez revisité tout ça, vous en aviez 50, par exemple. Donc, je peux me dire que je suis assez forte et assez grande et je n'ai pas besoin de l'aval de la parole divine à nouveau d'un autre religieux pour... avoir le droit de vivre quelque chose et sortir de cette situation-là. Il me faut me l'accorder moi-même. C'est-à-dire tout le chemin de l'adulte, c'est de pouvoir petit à petit devenir son bon parent à lui-même, en quelque sorte, et se proposer autre chose que ce que l'on a dit de moi, ce que l'on a pensé de moi, et que j'ai fini par m'asséner moi-même pendant trop longtemps, me réduisant finalement à l'injonction sociale ou à l'injonction familiale, etc. Et c'est un travail difficile pour chacun d'entre nous.
Oui, parce que ça demande, excusez-moi, beaucoup de volonté. Et j'ai beau me dire quelquefois, mais non, tu n'es pas que ça. Eh bien, on dirait que ça ne me libère pas. Comment dire ?
Mais parce qu'être, il faut, ça ne fait pas le déclic, mais ce n'est pas le tout de dire « je ne suis pas ça ». C'est « je suis quoi ?» Et je vais faire quoi ? Alors, pour l'instant, vous ne travaillez pas, mais c'est peut-être qu'est-ce que je fais pour ressolliciter un travail, mais ça peut être aussi, je vais aller bêcher mon jardin et je vais faire pousser des plantes et je vais voir que je suis capable de créer des choses et des belles choses. J'ai peut-être parfois besoin de petites choses pour restaurer l'image de moi. Parce que finalement, on vous a dit que vous étiez un objet finalement de désir, on vous a dit que vous étiez interdite au mariage, on vous a dit que vous étiez née sous une mauvaise étoile, on vous a dit que vous aviez vraiment, il vous arrive toutes les, vous êtes choumounarde parce qu'il vous arrive toutes les catastrophes que personne n'a rencontrées dans sa vie, et finalement ça devient identitaire. Or, il vous faut sortir de cette lecture identitaire qui n'a été forgée que par le biais d'accidents de parcours, comme nous en vivons tous. Et il vous faut attirer peut-être aussi votre attention sur tous les autres événements qui ont été les belles étoiles. Parce que vous n'avez pas que des mauvaises étoiles au-dessus de la tête. Chacun, nous passons par des climats, tantôt de tempête, tantôt de soleil, comme je le disais en début d'émission. Et donc, où sont les soleils de votre vie? Parce qu'ils vous
constituent. J'ai du mal à le voir, justement.
Ben voilà. Peut-être que c'est un travail qu'il vous faut faire, peut-être avec un petit papier, un petit stylo, et que vous notiez, vous avez votre colonne qui est bien remplie sur tous les accidents et les douleurs. Peut-être vous faut-il justement maintenant, Pascal, essayer de remplir la colonne, et vous en avez le temps, vous ne travaillez pas, bien remplissez la colonne des bonheurs, des tout petits bonheurs. Pas nécessairement des trucs extraordinaires. Commencez par les petits bonheurs, par les petits sourires, par un chant d'oiseau, par un émerveillement, par un bon goût dans la bouche. Je ne sais pas, cherchez des petites choses jusqu'à trouver des situations dans lesquelles la vie a été réjouissante, touchante, respectueuse de vous, valorisante de vous, pour que vous voyiez petit à petit cette colonne remonter dans votre conscience. Parce que comme vous le disiez, concernant notamment cette histoire d'attouchement, eh bien, il y a un temps où on met des couvercles sur les histoires pour arriver à vivre tant bien que mal. Eh bien, vous avez enlevé le couvercle d'une histoire qui est une histoire odieuse et qui était une histoire ô combien irrespectueuse de vous. Mais vous avez aussi à enlever le couvercle de des bonheurs que vous n'avez pas vus parce que vous vous êtes réduite. Voilà, Pascal.
Oui, parce que j'ai du mal à voir ça. Et même, quelquefois, dans des sourires, je vois que c'est chouette. Et,
bien sûr.
Mais j'en demande plus.
Eh bien oui, vous avez le droit d'être gourmande et de gourmande de bonheur. Et d'ailleurs, dans votre voix, j'entends des sourires. Et je veux croire que vous allez aller dans cette direction. Voilà, Pascal, je vous souhaite une très, très bonne soirée.
Merci vous aussi.
Merci beaucoup. Voilà, eh bien, cette émission se termine. Je vous retrouve moi demain sur cette libre antenne à nouveau d'Europe 1. Mais pour l'heure, je vous souhaite à tous une nuit paisible et confiante. Il est minuit, vous êtes sur 1h, vous êtes sur Europe 1.